Sud Radio 10h midi, débat.
Débat entre 10h45 et midi avec vous, avec aujourd'hui Michel Taub, bonjour, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Thomas Porte, bonjour, conseiller politique. Vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. On vous a beaucoup vu ce week-end puisque vous étiez l'un des organisateurs de la manifestation contre les idées d'extrême droite qui a eu lieu ce week-end. Mathieu Cheng, directeur associé chez BVA Nudge Unit et vous êtes cofondateur de Délit d'opinion. Et Jacques Miard, bonjour Jacques Miard, vous êtes maire de Maison Lafitte et vous avez publié Comment trancher le nœud gordien, c'est cela, et c'est, on l'a reçu vendredi pour tout vous dire, je n'ai pas encore eu le temps de le lire.
Mais j'espère que vous le lirez avec attention.
Je vais le lire avec attention parce que vous passez en revue cette année qui s'est écoulée. C'est une sorte de journal que vous avez tenu de vos commentaires des événements de l'année passée. On va revenir sur le couvre-feu, les masques en extérieur. Faut-il réellement attendre le 1er juillet ? Les Français ont de plus en plus de mal à accepter ces contraintes. On va revenir sur ce week-end politique avec les invectives, la farine, climat politique délétère, et puis l'interview de Mila hier qui a beaucoup beaucoup fait réagir, on vous en a parlé dans le zapping. Commençons avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Michel Taub,
C'est un coup de cœur pour tous les donneurs de sang, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du donneur de sang. Et malheureusement en France, mais dans beaucoup d'autres pays dans le monde, on manque de donneurs de sang de façon assez cruelle. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux donateurs. Donnez votre sang. Il y a environ 4... Ils n'ont en stock que 80 000 poches de sang. Et c'est très, très, très insuffisant. On a besoin grosso modo de 10 000 donneurs par jour pour satisfaire à tous les besoins. Encore une fois, en cas d'accident, lorsque le SAMU intervient, il faut avoir de quoi avoir des stocks de sang. Et donc, c'est un peu un appel du cœur pour dire donnons notre sang. Par exemple, à Paris, il y a une très belle opération qui est menée. À l'hôtel de ville de Paris, c'est absolument magnifique. Il y a tout un parcours qui a été créé. En moins d'une heure, vous pouvez donner votre sang. Et pendant qu'on vous prélève le sang, vous avez vu sur les plafonds de la salle principale, la salle des fêtes de la mairie de Paris, et vous vous évadez comme si vous n'étiez pas en train de faire cet acte-là. Je trouve ça vraiment magnifique. Bon. Et j'espère que Jacques Miard... Bien sûr, je suis sûr que Jacques Miard, dans sa mairie, doit organiser les mêmes initiatives. Donnons.
Je n'ai pas de fresque au plafond. Nous le faisons effectivement dans des gymnases, en ayant notamment les règles de distanciation sanitaire, et nous le faisons régulièrement, parce que ce qui est regrettable, c'est que les établissements publics ont supprimé les camions, vous savez, avec lesquels collecter, ce qui rend un peu plus difficile la collecte, et notamment... parce qu'avant, c'était face à la mairie de Maison Lafitte, à la sortie de la gare. Et bien maintenant, ces camions sont supprimés, ce qui est regrettable.
Oui, absolument. Mais c'est un beau coup de cœur. Et avant l'été, effectivement, souvent, les provisions de sang, les réserves de sang sont très faibles. Et donc, il faut aller donner son sang. Jacques Miard, c'est un coup de gueule.
Oui, c'est un coup de gueule parce que vous avez tous vu, notamment lors du G7, cet entretien badin-badin entre Macron et Biden, où il racontait des choses totalement anodines, sans signification, on va coopérer, tout ça, c'est pas sérieux. Et je trouve que c'est d'une manipulation grotesque. Qui plus est, le président s'adresse à nouveau en anglais à son homologue américain. On peut comprendre que lorsqu'on est en négociation à huis clos, il puisse échanger quelques mots en anglais. Mais là, alors qu'il est le président de la République, que la langue française est la langue de la République, il se vautre dans le globish. C'est absolument inadmissible et je suis scandalisé. J'ajoute à ça que je viens de lire sur Le Figaro ce matin qu'il est en faveur de l'interopérabilité des armements, ce qui signifie que si on passe à l'interopérabilité, c'est les Américains qui vont imposer leurs normes d'armement.
Il y a un moment,
je me demande comment il réfléchit et pourquoi il agit ainsi. Mais cet entretien qui était vide de sens avec Biden, c'est de la pure communication et c'est nul.
Bah, on ne sait pas tout ce qu'ils sont dit, mais enfin, l'anglais reste quand même la langue
de quoi
de, bah, des débats internationaux, Michel.
Mais non, mais alors, bon Dieu de bon Dieu, Valérie, Mathieu, si les Français ne défendent pas la langue française, ensuite vous allez parler aux Africains, vous allez dire vous avez la francophonie. Oui. C'est un oxymore.
Bon, je crois que Jacques est lancé.
Alors, Mathieu, c'est dur de
le couper, mais dans ces sommets, il y a le fond et il y a la forme. Donc, la forme, c'est quoi? Bah, il y a des visuels qui montrent la bonne entente entre le président américain et le président français. Et puis, il y a aussi le fond, si on veut s'y pencher. Le fond, c'est quoi? C'est un communiqué de presse final et des déclarations assez fortes, un front unique contre la Chine et surtout contre les dérives de la Chine, notamment le travail forcé. C'est par ailleurs le soutien explicite à Hong Kong. On s'en souvient, c'est pas que le G7, mais il y a quelques mois, un impôt minimum de 15%. Il ne s'agit pas ici de décerner un bon brevet à l'un ou à l'autre, mais de dire que dans ces sommets, et en l'occurrence, j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger sur le front économique et sur le front du rapport à la Chine. Donc bien sûr, il y a une photo qui est plaisante entre Biden et Macron et qu'on peut critiquer en disant qu'elle est dénuée de fond, mais il y a aussi des discussions sérieuses qui sont en train d'avancer. Je crois que c'est un bon
c'est
pas
tout
à saluer.
Le problème. Mathieu, c'est tout le problème de savoir ce qu'on fait avec le G7. C'est tout le problème de ce qu'on fait avec l'OTAN. Parce que là, il y a un problème de fond. Si on s'aligne systématiquement sur les positions américaines, on n'existe plus. Et le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis scandalisé par ce G7 qui veut être le gouvernement du monde. Bien sûr que la Chine pose beaucoup de problèmes. Moi-même, je pense qu'elle est atteinte d'hubris. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut se garder de s'aligner systématiquement sur une machine qui est une machine politique totale, qui est l'OTAN.
Jacques, j'aimerais me concentrer sur la langue française, mais quand même sur ce dernier propos, on peut pas un jour regretter que Trump se retire de multilatéralisme, et que lorsque les États-Unis reviennent à la table des discussions, dire qu'on s'aligne sur les États-Unis. Donc je pense que c'est plus compliqué que cela. Ceci dit, j'aimerais me concentrer, je suis tout à fait d'accord avec Jacques sur l'histoire de la langue française. Emmanuel Macron, on sait qu'il parle parfaitement bien l'anglais, c'est bon, il l'a suffisamment prouvé. Je pense effectivement que c'est très bien qu'il parle en anglais dans les discussions fermées, loin des caméras, mais que devant les caméras, il peut très bien parler en français, ce qui est extrêmement important parce que la langue française reste quand même une des langues je ne dirais plus universelle malheureusement, mais internationale, officielle, rappelons-le, des Nations Unies. Ça reste une des deux, trois langues officielles des Nations Unies.
Vous pensez qu'il aurait dû parler français?
Je pense que devant les caméras, il aurait dû parler en français et ça fait une promotion. Il y a nos amis canadiens. Que pensent nos amis québécois? Le Canada fait partie du G7. Que pensent nos amis québécois qui se battent tous les jours pour la promotion de la langue française? Ils auraient été contents de voir que le président français parle en français. Donc c'est très important pour la francophonie. Ils ont beaucoup parlé d'Afrique, je suis d'accord avec Jacques, ils ont beaucoup parlé d'Afrique, la France est en perte de vitesse en Afrique, ça se passe aussi par la perte de la langue française, donc je pense que le président de la République, rappelons-nous Jacques Chirac, qui avait fait un esclandre, il était sorti d'une réunion du Conseil européen de l'Union européenne, parce qu'il y avait un haut fonctionnaire français qui parlait en anglais.
Le président du MEDEF.
Oui, pardon. Non, il est vrai qu'il n'est pas haut fonctionnaire.
Thomas, vous en pensez quoi?
Moi, déjà, j'ai un problème avec le G7, puisque je considère que c'est pas une institution légitime où on est à 7, on veut décider un peu de tout ce qui se passe dans le monde. Après, on sait, moi, je partage ce qui a été dit.
Il y a le fond et la forme. On a le droit de se réunir entre démocratie libérale, quand
même. Oui, bien sûr, mais il y a des sujets de fond qui n'ont pas été abordés. On en parlera tout à l'heure sur la levée du couvre-feu et sur la levée des brevets sur les vaccins où tout le monde communique, mais cette décision, elle n'a pas été prise dans le cadre du G7. Malgré des effets d'annonce. Après, il y a la communication avec les photos officielles et ce qui se passe dans les couloirs. Après, moi qui parle en anglais ou en français, très sincèrement, j'ai pas vraiment de position arrêtée là-dessus. Moi, c'est la position c'est le G7 qui me pose problème et ce qui se passe dans ces instances-là.
Il y avait une chose qui était amusante en marge de ça, c'est la photo postée par Emmanuel Macron où il est en train de faire la leçon à Joe Biden avec les mains devant lui et la photo postée par Joe Biden qui à l'inverse montre un Joe Biden le doigt pointé vers Emmanuel Macron. Donc
ridicule.
C'est tout à fait de la com.
Et d'ailleurs, on se présente comme des copains alors que la défense de nos intérêts, ça va être rugueux.
Deux choses quand même parce que Emmanuel Macron l'avait déjà fait avec la visite du président de la République de Tunisie il y a quelques mois. Emmanuel Macron a passé de longues minutes à marcher avec Joe Biden en le serrant assez fortement. Oui. Alors que franchement, il y a des gestes barrières respectés. Joe Biden est quand même âgé. C'est quand même danger. Il faut faire attention. Donc ça n'est pas donner l'exemple. Et je pense effectivement qu'il y a des formes de familiarité qu'on ne peut pas se permettre et en plus là, mise en danger quoi.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de Mila, de la campagne des régionales, et oui, on vote dimanche prochain, et puis les coups de gueule de Thomas et de Mathieu. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Thomas Porte, conseiller politique, votre livre Au cœur de la haine est paru aux éditions Arcane 17. Mathieu Cheng, directeur associé à BVA Nudge Unit et cofondateur du site Délit d'opinion. Et Jacques Miard, maire LR, je ne sais pas où je partais, maire LR de Maison Lafitte, et vous venez de publier Comment trancher le nœud gordien. C'est à lire, ça vient tout juste de paraître. On va revenir sur le cas de cette jeune adolescente, Mila, symbole de courage. Elle était hier dans l'émission 7 à 8. La vidéo a été vue par plus d'1,5 million de personnes sur les réseaux sociaux. Couvre-feu, masque en extérieur, les Français en ont assez. Faudra-t-il attendre le 1er juillet? Et puis le climat politique autour de la campagne des régionales et le climat politique en général. On parle de tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Thomas Porte, c'est un coup de gueule.
Oui, contre Marlène Schiappa, qui déjà avait un peu marqué les esprits samedi avec le meeting incroyable et atterrant pour tous ceux qui suivent la politique avec chauffeuse de salle. Mais,
vous voulez qu'on l'écoute? On l'avait dans le zapping. Si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu?
Non, volontiers.
Donc elle a chauffé la salle. Le Point nous apprend, l'hebdomadaire Le Point donne une info selon laquelle elle a passé l'audio qu'elle a envoyé pour dire aux gens soyez là, soyez enthousiastes et écoutez ce que ça a donné sur scène.
C'est l'île de France qui va s'enflammer. Votez Laurent. Votez Laurent, allez, allez.
Quand le parc floral se met à chanter, allez
c'est
debout.
L'île de France qui va s'enflammer.
Votez allez, Laurent, allez, votez Laurent,
allez, allez.
Voilà.
Et ouais, la donc, surprise de juin.
Déjà, elle avait commencé son week-end comme ça, mais moi, ce qui a retenu, c'est les propos qu'elle a tenus hier sur Europe 1 et CNews dans le cadre d'un grand entretien où elle dit qu'elle veut tout faire pour empêcher l'extrême droite et le Rassemblement National d'arriver aux affaires. Elle dit que c'est dangereux de jouer avec l'extrême droite. Elle dit au sujet de la marche des libertés, tout est d'extrême droite, donc plus rien d'extrême droite. Mais en vérité, si, on sait ce qui est d'extrême droite. Ce gouvernement reprend la rhétorique de l'extrême droite depuis des semaines et des mois, quand il parle d'ensauvagement, d'islamo-gauchisme. Quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit que Mme Le Pen est trop molle, qui va manifester avec des syndicats policiers, dont Alliance Police, devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur le pouvoir législatif. Qu'on enquille des lois qui sont la loi sur le séparatisme, la loi contre la sécurité globale, qu'on a après la suppression de l'Observatoire de la laïcité par Mme Schiappa, parce que, soi-disant, il ne se concentrait pas assez contre l'islam et les musulmans.
Bah oui,
ce gouvernement est aujourd'hui...
Oui, c'est
non, c'est faux.
C'est pas un coup de gueule, c'est un programme politique
non,
que vous alignez.
Tous les experts disent que l'Observatoire de la laïcité, c'était pas mon sujet, a fait du très bon travail. Et Nicolas Cadenne, d'ailleurs, et Jean-Luc Bianco viennent de créer une autre structure pour continuer ce travail-là.
Soutenu par des gens, dont Dounia Bouzard, des gens qui ne sont pas forcément...
Oui, laissez-moi terminer sur Mme Schiappa, c'est que... on peut aussi parler des états généraux de la laïcité où elle a invité M. Enthoven qui a dit plutôt que Mélenchon choisirait Le Pen, donc ça quand même ça interroge sur les choix de ce gouvernement, mais en vérité Macron qui s'est présenté comme le rempart de l'extrême droite est aujourd'hui un ascenseur pour l'extrême droite et va lui livrer le pouvoir sur un plateau si on continue comme ça, donc elle ferait mieux de garder ses leçons pour elle et de regarder aujourd'hui la politique qui est menée par le gouvernement qui alimente à la fois les idées d'extrême droite et le climat de haine dans lequel on évolue. Je crois qu'on en reparlera tout à l'heure.
Oui, on va en reparler du climat de haine. Vous voulez réagir,
Thomas ? Je vous laisse le reste de la teneur de propos que je ne partage pas, mais sur la question du Front National, Rassemblement National, si on est exact. Emmanuel Macron se présente comme le rempart au Front National. C'est un pari qui est terrible parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord que le vrai rempart au Front National, au niveau des régions, c'est absolument pas La République En Marche qui est, dans la plupart des cas, à la limite un faire-valoir, c'est les Républicains ou, dans quelques régions, la gauche. Et donc, aujourd'hui, très, très honnêtement et objectivement, on voit au niveau national, on a les Républicains qui font environ 28% au niveau national.
Ouais, ouais.
On a un peu derrière, ça c'est les collègues de Pignanois qui le font, on a le Front National, Rassemblement National qui fait 26%. Et puis La République En Marche, elle était passée de 18% au mois de février à 13% au mois de juin. Donc ouais. C'est objectivement, le président est en train de jouer avec le feu, de perdre son pari et potentiellement de faire basculer des régions. Oui. Et objectivement de faire basculer des régions. Donc la question de savoir, qui va se poser au soir du premier tour, c'est si elle veut vraiment faire barrage au Front National,
ouais.
Est-ce qu'elle continue à jouer avec le feu ou est-ce qu'elle se retire sans essayer de négocier son désistement pour faire, ouais. Pour faire barrage. Et ouais. C'est la seule question qui va se poser.
Bah ouais. Moi,
Mathieu a raison.
Moi, Mathieu... Allez-y, oui. Jacques Myard, allez-y.
C'est oui, Mathieu a raison parce que ce qu'essaye de faire Macron, c'est de refaire, je dirais, le binôme qui est présidentiel du second tour en 2017. C'est extrêmement dangereux. Moi, je pense même que Macron a une chance comme ça de ne pas arriver au deuxième tour à la condition que les LR aient une seule candidature. Donc, mais c'est extrêmement dangereux. Bon, je ne partage pas, bien évidemment, tout ce que vient de dire Thomas, mais il est exact que Mme Schiappa, à un moment, devrait apprendre à se taire et pas se lancer dans des diatribes de ce type.
Mmh. Oui, Michel.
Non, moi je voulais vraiment rester sur le son que vous avez fait passer, c'est-à-dire ces chauffeuses de salle, mais c'est quoi ces mélanges de genres, quoi. Je veux dire, bientôt,
oui,
le rôle d'un politique, c'est de proposer, c'est de faire des propositions, c'est de critiquer ses adversaires, mais c'est pas de chauffer une salle. Je veux dire, c'est des mélanges de genres, et Marlène Schiappa aime bien aller sur des territoires qui ne sont pas ceux d'un politique. Et je trouve que c'est très mauvais. Ça, c'est une contribution de plus à la désacralisation, au non-respect des politiques que les politiques eux-mêmes nourrissent. Mmh. Donc voilà, le président de la République qui arrive en bras de chemise et en courant, comme s'il était en train de faire un footing. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, quand il faisait du footing, il le faisait quand même pour s'entraîner. Il ne le faisait pas pour aller au-devant de nos concitoyens. Enfin, je ne sais pas. Il y a, la Macronie est ivre de sa jeunesse. Et ne respecte pas l'institution qu'elle représente.
Marlène Schiappa, un message pour vous, enfin pour vous et tous les éditorialistes du dimanche, comme elle dit, et leurs amis. Elle
on
dit,
est lundi, on est
oui,
ça
oui,
va.
Oui, mais elle dit merci d'avoir réagi exactement comme on l'avait prédit au meeting, avec un petit smiley souriant. Nous ne nous excuserons jamais de faire des campagnes joyeuses et bienveillantes. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on doit être sinistre. Voilà.
Alors, d'un point de vue plus stratégique, La République En Marche a compris depuis très longtemps la puissance des helpers et des chauffeurs de salle. Pourquoi ? C'est exactement ce qui s'est passé en 2017. Vous mettez dans une salle un candidat et vous mettez une foule joyeuse en mouvement, ça fait des images qui sont exceptionnelles. Bon, ils ont la capacité à le faire aussi parce que, pour être honnête, il y a un public qui peut être aussi jeune à La République En Marche et qu'on n'a pas forcément du côté des Républicains. Donc ça veut dire que d'avoir une salle qui est chauffée à blanc avec des militants un peu jeunes qu'ils arrivent à avoir chez La République En Marche, ça crée un effet positif qui a un impact, qui peut avoir un impact effectivement
mais
en termes d'image.
Ouais.
Enfin, si on confond la forme et le fond, c'est extrêmement grave. Parce que jusqu'à nouvel ordre, l'engagement politique, c'est un projet cohérent. Ce n'est pas de chauffer une salle pour débrider, je dirais, les hurrahs. Vous savez, moi j'ai vu, et vous l'avez sans doute vu également, avec une bande de jeunes que l'on faisait chanter « Vive Sarko, vive Juppé, vive tout ce que vous voulez », c'est pas comme ça qu'on va avoir une cohérence dans l'action politique. Donc c'est assez pitoyable et ça ramène Schiappa à ce qu'elle est, c'est-à-dire pas grand-chose.
Bah, elle est un des ministres clés du gouvernement. Hein,
oui, encore ministre, oui.
Oui. Avant de vous donner la parole, Mathieu, je voulais vous signaler donc que l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs est classée sans suite pour cause de prescription dans l'affaire Duhamel. C'était attendu, il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais bon, voilà, l'information est tombée. Commentaire, Michel Taube ? Non,
c'est le temps de la justice n'est pas forcément le temps des victimes et même des femmes et des hommes que nous sommes. C'est-à-dire que là, la victime, elle a fait un livre, le débat est sorti sur la place publique, Olivier Duhamel s'est retiré de toute vie publique. Je pense que c'est la meilleure des sanctions qui pouvaient lui arriver.
Et voilà, c'est une sanction politique sans appel.
Absolument. Allez, on passe à votre coup de cœur,
oui,
Mathieu.
Oui, alors comme des millions de Français hier qui ont pu lire Mila dans le JDD ou l'entendre sur TF1.
Mila, on rappelle, c'est cette jeune femme, cette adolescente qui a critiqué l'islam et qui, depuis, a été menacée de mort, obligée de quitter son lycée, qui vit cachée.
Exactement. Voilà. Elle raconte d'ailleurs son quotidien. Sa vie menacée, sa vie brisée. Elle dit également ses doutes. On voit à la fois une jeune fille de son âge, une jeune fille également d'un incroyable courage. Et pourtant, comme de nombreux d'autres, au début, je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas l'écouter. Il y a une partie de moi-même qui se disait, il faut qu'elle passe à autre chose, il faut qu'elle abandonne. Et au fait, c'est Mila qui a raison du haut de ses 17 ans face à des millions de gens qui pensent comme moi. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas se résigner à baisser les bras, à baisser la tête face à des gens qui menacent la liberté. On n'est pas forcément tous Mila, pour être honnête, mais on doit tous faire bloc.
Oui.
Pourquoi ? Parce que en réalité, ce sont nos valeurs communes qui sont en jeu. C'est la liberté qui est en jeu. Et en tant que père, que mère, que grand-parent, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, qu'on soit laïque ou qu'on soit croyant, on doit se battre pour la liberté d'expression. Et en l'occurrence, elle a exercé son droit de blasphème. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en France, si on n'est pas d'accord, si on s'estime victime, on a la justice pour ça. En tant que citoyen, si on n'est pas d'accord, on a la raison pour ça, on a les arguments. Et même si on est croyant, on a quelque chose qui s'appelle la prière pour amener la paix. Il n'y a aucune autre voie qui n'est possible en France. Et Mila, avec ses excès, avec son courage aussi extraordinaire, nous le rappelle. Et elle l'a fait hier, encore une fois, au péril de sa vie.
On va la réécouter dans un instant, après la courte pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
On est ensemble sur Sud Radio avec Michel Taube, Thomas Porte, Mathieu Chaigne et Jacques Myard. Mathieu Chaigne, vous évoquiez l'interview de Mila hier à 7 à 8. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Je suis vue comme un symbole parce que j'ai pas peur, je continue de m'exprimer comme bon me semble. Et qu'on me mette un couteau sous la gorge, je m'arrêterai jamais de parler. Moi, quand on me demande « tu te vois comment dans 5 ans, dans 10 ans ?» je me vois peut-être grande brûlée. Peut-être avec une jambe arrachée ou peut-être morte. Peut-être que je serai morte dans 5 ans. Je vais forcément pas rester en vie. Et je vous dis ça dans le plus grand des calmes. Et je sais que c'est pas normal, j'arrive encore à me le dire. Et c'est dans ces moments-là que je me mets à pleurer. Parce que je suis pas capable de voir mon avenir comme les autres.
Voilà, c'était une interview assez forte.
Mathieu, vous avez dit une chose, on n'est pas tous Mila. Mais moi, je suis pas d'accord, quoi. Moi, je pense que y a des choses qui me gênent, mais avec Charlie Hebdo, il y a des choses qui me gênaient aussi. Et pourtant, nous étions tous Charlie. Et moi, je pense qu'on est tous Mila, parce que la condamnation sans la moindre réserve de tout appel à la violence, à la haine, à la mort d'une personne comme elle ne doit pas faire l'ombre d'un doute. Et de même, elle est malheureusement devenue un symbole de la liberté d'expression, du droit de blasphème. Et je pense que tout citoyen républicain doit pouvoir. Et encore une fois, Mila, il y a des éléments chez elle qui me gênent, mais peu importe.
C'est juste
elle est un symbole.
Oui, je rebondis juste là-dessus. Mon soutien, comme des millions de Français, est inconditionnel à Mila. Je pense que le piège est de dire, quand on dit « je suis Mila », ça veut dire que l'intégralité de ce que pense Mila doit être pensée par l'individu. Et je pense que c'est un piège. Je pense que l'ensemble de la société française doit faire bloc derrière Mila, en reconnaissant que nous ne partageons pas forcément tout avec Mila. Et je pense que le fait de dire « forcément, je suis Mila », est une erreur qui ne sert pas à la cause de Mila. Oui, c'est un symbole. Le soutien doit être inconditionnel. Oui, il y a des choses qui nous gênent en elle. Pourtant, on doit défendre coûte que coûte une jeune fille qui est empêchée de vivre et qui est empêchée d'exercer sa liberté.
Oui.
Au-delà du slogan, je crois que ça rappelle quoi ? Ça rappelle Salman de Rushdie, qui est condamné à mort avec une fatwa et malheureusement vit avec une protection qui dure encore. Et dans les propos de Mila, c'est terrible que dans notre pays, une jeune fille, quoi qu'elle ait dit, puisse se retrouver comme une morte vivante. C'est absolument terrible. Et c'est là où nous devons dénoncer fortement ce prosélytisme djihadiste qui est mortifère et nous devons prendre des mesures. Et la lutte, elle est d'abord culturelle, plus encore que, bien sûr, une question de renseignement. C'est en apprenant que l'on doit lutter contre cette culture mortifère, parce que ça viendra. Malheureusement, dans l'islam, il y a des cycles. Hein, ça fait 13 siècles que ça dure. Et il y a des cycles d'intégrisme. Ensuite, les musulmans eux-mêmes se redressent et chassent ces personnes-là. Mais aujourd'hui, en France, qu'on entend une jeune fille qui se considère comme une mort vivante, c'est terrible. Et nous devons tout faire pour la protéger.
Oui, Thomas,
Non, moi je partage ce qui vient d'être dit, notamment par Mathieu. Effectivement, on peut ou pas partager ce que dit Mila et ne pas être en position de dire « moi je l'aurais dit », mais le soutien il est inconditionnel, il est total, puisqu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'une jeune adolescente soit menacée de mort et vive sous protection et se voit mourir dans les prochaines années parce qu'elle a critiqué une religion, parce qu'elle a exercé son droit au blasphème et qu'elle a dit ça sur les réseaux sociaux. Je crois que ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut des sanctions extrêmement fermes contre celles et ceux qui menacent de mort. Et effectivement, ça a été dit, on est dans une société où on peut avoir du débat, c'est-à-dire si on n'est pas d'accord avec ça, ben on peut saisir la justice, on a des arguments opposés, on a des choses à faire. Mais aujourd'hui, autour de cette jeune adolescente, effectivement, il faut dire tout notre soutien inconditionnel là-dessus. Après, moi, je suis aussi partagé sur une chose, c'est-à-dire qu'on fait aussi monter ça, qui a été exploité par certaines personnes parfois, et ça lui met aussi une cible sur le visage. Il y a aussi la rendre visible et dénoncer ce qu'elle vit, et c'est une réalité, mais il y a aussi l'autre versant, c'est que plus on la met en avant, plus on la rend visible, plus on crée aussi autour d'elle des risques. Donc il y a toujours une ambivalence.
C'est un vrai débat, parce qu'elle est protégée, elle vit cachée. Bien sûr. C'est vrai que c'est un...
Mais il y a toujours... Ouais. Parce qu'on parle quand même, il faut quand même aussi remettre on parle d'une jeune adolescente, c'est aussi ça, quoi. C'est une personne en pleine construction, qui vit Absolument. Aujourd'hui un enfer, donc il faut vraiment la protéger au maximum, quoi. Et est-ce que la rendre de plus en plus visible, c'est la protéger?
Oui,
je m'interroge.
Ceux qui ont violé son statut d'adolescente capable, parce qu'elle était une ado, de dire des bêtises, de dire des choses totalement excessives, c'est les islamistes. C'est eux qui en ont fait un symbole de ce pourquoi nous battons. Et j'essaye de me mettre à sa place. Elle nous dit là que dans 5 ans, elle ne sera plus en vie. Donc j'imagine qu'elle autant qu'elle elle exprime des choses qu'elle... Non, mais autant, elle doit se dire, autant que j'exprime
je m'interroge toujours sur cette ambivalence. Je
ne partage pas tous ses propos. Je pense qu'il ne faut pas, quand on peut ne pas stigmatiser, avoir de la haine dans le propos vis-à-vis de toute personne, il ne faut pas le faire. Mais en même temps, nous avons des ennemis qui sont en guerre contre nous. Donc face à ces ennemis, il faut être vent debout et dire les choses et ne pas avoir de réserve et ne pas s'auto-censurer comme trop, notamment à gauche, s'auto-censure très, très souvent. Voilà.
Oui, Marianne nous dit, Mila, c'est elle qui a été invectivée au début, elle s'est défendue et c'est elle la victime. Exactement. Aujourd'hui, elle vit sous protection policière. Donc
on est tous d'accord là-dessus sur le fait du soutien inconditionnel à cette jeune adolescente. Ouais.
Allez, on va peut-être continuer dans la violence. On va revenir sur ce week-end. Je vous propose d'écouter un extrait de ce qui s'est passé. Éric Dupond-Moretti, qui était parti dans la Somme pour faire campagne, il a croisé Damien Rieu, un candidat du Rassemblement National. Écoutez cet échange.
Vous n'avez pas le temps d'être en vacances.
Venez travailler avec
vu l'état
moi,
de la justice.
Venez avec moi,
vous n'avez pas le temps d'être en vacances.
Je travaille 10 fois plus que vous.
Eh bien, bah on voit ça.
On vaut mieux avoir des boutons de manchette que faire des vidéos érotiques comme Monsieur Odoul.
Une attaque sous le pantalon. Bravo, Monsieur Moretti.
Sous le pantalon.
Parlez-en à votre ancien candidat à la mairie de Paris. Monsieur Griveaux. Et Monsieur Griveaux. Alors, c'est pas gentil pour votre collègue Monsieur Griveaux, Monsieur Moretti.
Voilà, c'est pas très glorieux pour la politique.
Moi, je pense que c'est le fait de la semaine. Je pense que c'est beaucoup plus grave que l'enfarinade de Jean-Luc Mélenchon, dont finalement de très nombreux femmes et hommes politiques français ont pâti. C'est presque une tradition française. Cet échange dont vous avez passé un extrait, moi, me paraît extrêmement grave et d'une violence redoutable. Parce que c'est le candidat d'extrême droite qui est posé. Qui est assis à sa table,
il boit un café. Posé.
Ah si, non, il est calme. Et vous avez Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, candidat d'un parti démocrate, qui s'emporte, et qui, c'est lui qui s'emporte, et qui n'arrive pas à se maîtriser, et qui rentre dans ce jeu malsain de Demarieux, je trouve que c'est le monde à l'envers, quoi. C'est le monde à l'envers. Vous avez Michel. La personne posée, qui est d'extrême droite, et le gars qui perd ses...
Oui, je ne trouve pas très posé non plus, Damien
Rieu. Je parle de la forme, je ne parle pas du contenu.
Oui, non, mais je voudrais
vous qui avez un peu d'expérience de campagne...
Oui, Michel, ça se voit que tu n'as jamais mené des campagnes personnelles. On peut se faire agresser, on peut se faire alpaguer, etc. Ça m'est déjà arrivé.
Si, j'étais candidat à la municipale de Strasbourg.
Mais franchement, ces échanges sont courants et... Il ne faut pas s'en offusquer. Ça a été bien pire dans le passé avec des échanges, des insultes bien pires. Là, effectivement, on a un garde des Sceaux qui s'est mis au niveau du RN. Je ne suis pas certain que ça ait été tout à fait séant et qu'il aurait dû rompre la discussion en disant « Je ne parle pas avec vous, au revoir ».
Oui, oui, il n'y a pas forcément gagné.
Je vais complètement dans le sens de Jacques Myard. On a un ministre de la Justice qui a décidé de rentrer dans le combat de rue. Oui. Il y a un mois, il arrive, il débarque dans les Hauts-de-France. Il fait des sorties tonitruantes en disant qu'il va chasser le Front National. Il n'y a pas un début d'idée, pas un début de fond. Qu'est-ce qu'il pense du canal Seine-Nord? Qu'est-ce qu'il pense des initiatives prises par Xavier Bertrand pour Proche Emploi? Qu'est-ce qu'il pense sur la question sociale et sanitaire? Honnêtement, depuis le début, Dupond-Moretti a envahi le terrain de rue comme de la boxe. Voilà. Ben aujourd'hui, il paye parce qu'au fait, quand on n'a pas de proposition, ne reste que les clashs. Et d'une certaine manière, moi, je pense très sincèrement que la stratégie de mettre des ministres qui ne connaissent pas le terrain, qui sont envoyés comme ça dans les Hauts-de-France notamment, mais en Île-de-France, c'est la même chose, ça ne peut que desservir la cause politique. Aujourd'hui, on en voit l'impasse.
Allez, on se retrouve dans un instant. Thomas Porte, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Il y a eu aussi un échange avec François Ruffin qu'on pourra écouter dans un instant. 0826 300 300, si vous voulez réagir, vous avez la parole sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité. Nous revenions sur la campagne des élections régionales et départementales. C'était le coup de gueule de Christine Bouillot vendredi qui disait qu'on parle très peu des départementales. Pas sûr que les gens sachent exactement effectivement ce pourquoi on va voter. Et je m'inclus dedans parfois. Donc week-end tendu, on évoquait le Dupond-Moretti, le ministre, le garde des Sceaux, face à Damien Rieu. Des propos pas dignes d'un ministre. Vous en avez pensé quoi, Thomas Porte ?
Je pense que Éric Dupond-Moretti est tombé dans le piège que lui a tendu Damien Rieu, qui est quand même pas un illustre inconnu pour ceux qui suivent l'extrême droite. C'est un identitaire qui a été à l'origine de la création de Génération Identitaire, qui sur les réseaux...
Dont vous parlez dans votre livre.
Sur les réseaux agite tout ça et s'amuse à attiser la haine. Et on voit que c'est pas du tout un échange politique. D'ailleurs, après, il a fait un montage en expliquant que M. Moretti était habillé avec 20 000 euros d'habits sur lui et que lui, il avait que 5 000 euros, donc il était plus légitime que lui et tout ça. Donc on n'est pas vraiment sur le fond. Mais moi, je veux revenir sur l'ensemble des violences qu'il y a eu depuis quand même une semaine, où c'est parti de la vidéo quand même du youtubeur d'extrême droite sur Jean-Luc Mélenchon et les électrices et les électeurs de gauche, où on s'est tous sentis quand même un peu mal vis-à-vis de ça.
Non, c'est parti des propos de Mélenchon, de M. Mélenchon.
C'est pas la même chose. Aujourd'hui, ceux qui disent que Mélenchon allume un contrefeu avec ça est absolument scandaleux. On n'allume pas un contrefeu avec une vidéo qui appelle à la mort des gens. On a eu l'agression du président de la République par un militant d'extrême droite, puisqu'on a été derrière voir ce qu'il faisait, c'était ça. Vous avez dit tout à l'heure, la farine sur les candidats, c'est une tradition française. Moi, je considère qu'il ne faut pas la...
Non, c'est pas vous, Valérie.
Ouais. Il ne faut pas la banaliser, parce que quand on voit c'est le pédigré de la personne qui s'est attaquée à Jean-Luc Mélenchon, et j'étais à côté de M. Mélenchon à la manifestation, c'est aussi quelqu'un qui est dans le milieu de la fachosphère et de l'extrême droite. M. de Rugy en a été aussi victime, et il faut le condamner. Donc je crois qu'il y a un climat aujourd'hui de violence qui est extrêmement préoccupant. Et de plus en plus de gens sont en train de passer à l'acte. Donc il faut aussi prendre la mesure de ce qui se passe. Et je crois qu'il faut avoir, une réponse très ferme contre ces gens-là. Et quand j'entends des gens qui disent que c'était hier sur une chaîne d'info en continu que M. Mélenchon l'a quelque part mérité, que c'est une chochotte, que si et que cela, non, c'est pas acceptable. Personne ne mérite aujourd'hui d'être victime de violence pour ses propos politiques. C'est inacceptable et je crois qu'il faut le condamner avec la plus grande fermeté pour toutes celles et ceux, quel que soit leur bord politique, qui sont victimes de ces agressions.
Mais la violence verbale fait monter aussi cette pression et cette tension.
Et notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos absolument scandaleux il y a quelques jours, qui sont de l'ordre d'une forme de complotisme et qu'il faut condamner. Moi, j'aimerais revenir sur Dupond-Moretti. Ce qui est vraiment scandaleux, et on en parlait avant, le président de la République joue vraiment avec le feu, c'est qu'en fait, Dupond-Moretti, il est en, on va dire, en action commandée pour essayer de faire battre Xavier Bertrand. C'est ça l'objectif.
Il y a cinq ministres dans les Hauts-de-France.
Oui, c'est quand même, c'est vraiment scandaleux, parce que qu'est-ce qu'on veut ? On veut abattre le Front National, ou on veut faire en sorte que créer le désert à gauche et à droite de LREM pour que effectivement Macron, par défaut, ouais, se retrouve face à Marine Le Pen l'année prochaine. Donc je pense que c'est très grave. Et puisque il faut appeler, nos concitoyens, parce que vraiment faut les appeler à aller voter, aller donner leur sang aujourd'hui et aller voter dimanche prochain au départemental et au régional. Mais pour ce qui est des régionales, l'enjeu, il est vraiment majeur. C'est vraiment de permettre, comme a évoqué dans la région Rhône-Alpes et avec Valérie Pécresse, là, c'est un petit peu les primaires de la droite qui se jouent à la fin de la semaine. Ouais. Et donc, je pense que d'envoyer Dupond-Moretti, c'est franchement assez inacceptable dans une stratégie de lutte contre l'extrême droite.
Plusieurs réactions de nos auditeurs. Jackie nous dit le garde des Sceaux semble être l'avocat du RN sans le savoir.
Et d'autres. En le sachant.
En le sachant ou en le sachant pas c'est, est-ce que en c'est une sachant. Stratégie, Jacques Mia?
En le sachant, pardon, je vois que Mathieu voulait prendre la parole, mais il est évident que la manœuvre, c'est ce que vient de décrire Michel, l'objectif, c'est de se retrouver dans la configuration de 2007. Donc, il veut éliminer tous les candidats potentiels qui pourraient le battre. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que l'opération Dupond-Moretti, qui est à... Vous avez entendu ce qu'il a dit d'ailleurs, il est garde des Sceaux. Il a dit « je vais éradiquer le Front National » ou justement le Rassemblement National jusqu'à nouvel ordre.
C'est un parti
démocratique. Pourquoi n'engage-t-il pas la dissolution de ce parti ? Donc ça ne tient pas la route. Donc c'est extrêmement grave. On a affaire à quelqu'un qui joue effectivement la valorisation du RN pour battre notamment Xavier Bertrand. Donc la ficelle est trop grosse, mais elle est réelle.
Pour l'instant, la ficelle ne prend pas parce que les listes de La République En Marche n'ont pas décollé. On est toujours à la limite des 10% qui permettent de se maintenir au second tour. Et ensuite, il va y avoir un moment de vérité. C'est qu'est-ce qui va se passer au soir du premier tour. Est-ce que La République En Marche va faire barrage au Front National ou est-ce qu'ils vont essayer de négocier mégoter pour faire chuter Xavier Bertrand ? Moi, je pense que le jeu est très dangereux parce qu'on va se rendre compte à l'issue des régionales que la stratégie dans laquelle il n'y a plus aucun espace entre Macron et Le Pen est une stratégie qui est perdante.
Et, qui est suicidaire.
Qui est suicidaire France, et qui, du coup, prend les Français en otage.
Oui.
Non, je partage, puisque c'est ce que j'ai voulu dire au début avec Mme Schiappa, c'est qu'ils jouent une stratégie parce que leurs idées ne prennent pas, ils n'arrivent plus à convaincre les gens sur leur programme politique. Donc le seul espace qu'ils ont, c'est de se présenter au second tour des élections face à l'extrême droite pour dire on va être le rempart, votez pour nous. Donc évidemment, on ne laisse pas le choix en plus aux gens. On est dans un espace qui est de plus en plus restreint. Donc ils jouent un jeu dangereux, mais à force d'attiser les flammes, on finit par se brûler. Donc ce qui peut arriver, et celui qui dit aujourd'hui qu'au second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Mme Le Pen n'a aucune chance de gagner, je lui souhaite bien du plaisir parce qu'aujourd'hui on est sur une réalité où les gens ne vont pas voter et là il y avait des enquêtes d'opinion qui disent que la détestation d'Emmanuel Macron et de La République En Marche est tellement importante qu'il y aura une abstention massive au second tour si on a Le Pen contre Macron. Et je finis juste sur une chose, effectivement j'invite les gens à aller voter aux élections départementales et régionales parce que ce sont des compétences majeures qui concernent la vie de millions d'habitants, aussi bien sur les transports, sur le logement, sur la transition écologique, sur la formation, sur l'économie, l'aide aux entreprises,
sur l'aide sociale,
donc
sur la dépendance,
c'est des boucliers sociaux. Les départements par exemple, on parle pas des élections départementales alors que c'est très important
c'est
dans
très
la vie
important,
des gens. Donc il faut aller voter et se mobiliser le 20 et 27 juin pour voter pour ces élections-là qui vont dessiner vos vies pendant les 5-6 prochaines années.
Ouais. Et aussi parce que l'abstention, s'abstenir, selon moi, s'abstenir, c'est voter Rassemblement National. Ça revient à cela. C'est-à-dire que ça fait le jeu de l'extrême droite. Il faut vraiment en être conscient de ça. Donc il y en a qui veulent tenter l'aventure du populisme d'extrême droite. Bon, très bien. Moi, c'est pas mon idée, même si j'ai des idées sur certains sujets qui sont assez radicales, mais jamais aller jusque-là. Je pense que pour la France, ce serait dramatique. Et si 2, 3, 4, 5 régions basculent au Rassemblement National, et c'est possible, ça peut arriver si l'abstention est massive. Et Mathieu Chen disait en off tout à l'heure que la clé, ça va être le vote des seniors. Le vote des seniors, et je pense que c'est très important comme analyse. Il faut que tous nos aînés aillent voter, 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 parce que sinon on va avoir des, on va se réveiller le soir du deuxième tour avec des très mauvaises nouvelles.
Oui, oui, il y a dans les clés effectivement des résultats, va y avoir deux variables. C'est est-ce que le Front National va se surmobiliser? On s'en souvient, à l'issue des élections européennes qui ont eu lieu l'année dernière, on a un Front National qui a explosé son score en valeur absolue par rapport au précédent scrutin de 2014. Plus 600 000 voix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les scrutins intermédiaires, le Front National se mobilise, et plus uniquement aux élections présidentielles. Et donc la deuxième question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a une mobilisation des seniors, c'est-à-dire des plus de 65 ans, qui sont un profil plutôt ayant tendance à participer? Ils n'ont pas trop participé pendant les élections municipales, notamment en raison des peurs liées au Covid. S'ils se mobilisent aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène, notamment pour les candidats sortants, que ce soit en Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit également en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France, où cet électorat est très largement acquis au président sortant.
Mmh. On a Romain en ligne avec nous qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour.
Je souhaitais intervenir là sur le propos que votre intervenant avait il y a peu de temps là sur condamner ces violences-là envers les hommes politiques, tout ça. Tout le monde est d'accord sur ce point-là en fait. Le problème, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui passent à l'acte. Bon, là, il s'avère que c'était une personne du Rassemblement National. Bon, lui, qui n'a jamais travaillé de sa vie. Mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, un brain folie comme ça. Parce que quand on voit ces hommes politiques qui mangent à tous les râteliers, qui ont le train de vie, mais qui ne correspondent pas du tout aux Français. Alors après, bon, Dupond-Moretti, avec 1000 euros d'habits sur lui. Bon, bref, ils ont tous des Rolex, ça, on le sait. Donc, ils ont des salaires qui sont indécents par rapport... Si, c'est vrai. Non, mais ne dites pas ça. On fait un procès d'intention à Fion, c'est la même chose. Ils se font payer des costards. Ils n'ont pas du tout la même réalité que les Français. Vous ne pouvez pas le nier. Voilà. Les Français en ont marre parce qu'eux sont esclaves de leur travail et d'une rémunération au travail, mais qui est insupportable, quoi. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, la grande majorité. C'est un fait. C'est un fait, ça, aujourd'hui. Alors, des pétages de plomb comme ça sur des gens, en fait, qui ne nous ressemblent pas du tout. Et où ça peut arriver à tout le monde parce que ben, la vie
vous
est dure.
Vous l'auriez fait, Romain?
Ça dépend du moment, mais quand on se lève les fesses au travail toute la journée et que quand on voit que c'est une lutte de classe sociale et que même en travaillant tous les jours, sans faire appel au chômage ou quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à avoir le même train de vie que tout le monde, partir en vacances deux fois par an, au ski ou à la mer, ou toutes ces choses-là. Mais bien sûr que ça fait péter les plombs et les gilets jaunes, ces rassemblements, si ça a débordé comme ça, c'est parce que c'est là, en fait. C'est quand on touche au porte-monnaie qu'on ne peut pas bouffer, ça fait briller les gens. Et ça, il faut commencer à le comprendre et pas mettre les effets sur des black blocs ou d'autres trucs un peu extraterrestres. Il faut revenir à la réalité.
Alors Romain, Michel Taube va vous
oui,
répondre.
Deux choses. Tous les hommes politiques ne portent pas des Rolex. Et non, il n'y a pas... Alors, peut-être que Dupond-Moretti a la folie des grandeurs sur certaines choses, mais en l'occurrence... non, moi, ce qui me pose aussi problème avec Dupond-Moretti, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le monde a changé. Et quand on est ministre de la République, on ne peut pas être candidat à une élection, ou alors on démissionne pendant le temps de la campagne, on se met en vacances du gouvernement et on va sur le terrain. Mais là, il y a trop de problèmes de justice dans notre pays pour qu'il puisse se permettre de passer 3-4 jours par semaine sur le terrain. S'il veut faire, il a décidé de tourner la page de sa vie d'avocat, il veut faire de la politique, c'est très bien, mais dans ce cas-là, il va au bout de son mandat, entre guillemets, de ministre, et il se présente aux élections législatives l'année prochaine pour essayer d'aller conquérir les voix de nos concitoyens. Mais pas d'être en même temps au four et au moulin, ça ne se fait plus de nos jours.
Alors allez-y, peut-être répondre quand même à Romain, parce qu'on a un auditeur qui me dit les chauffeurs à vie pour les ministres et les sous-ministres. Non, ils n'ont pas des chauffeurs à vie.
Intervenant qui vient de vous téléphoner, Valérie, c'est que ce qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui, c'est la désespérance des Français, et notamment des classes moyennes et des classes qui sont... La pauvreté qui a augmenté dans ce pays. Ça, c'est une réalité, parce que franchement... il y a des arrogances de certains riches, entre guillemets, qui ne sont pas acceptables. Parce que aujourd'hui, on a de la désespérance, on a des gens qui sont atteints psychologiquement et qui, effectivement, galèrent, y compris pour vivre et manger. Donc, il faut regarder ça en face, parce que c'est l'un des enjeux les plus forts que nous aurons pendant la campagne des présidentielles. Oui. Comment retrouver, je veux dire, de l'égalité citoyenne, et notamment comment retrouver la valorisation des classes les plus démunies et les classes moyennes aussi.
Normalement, c'est le boulot de la gauche, Thomas Porte.
Pas seulement, non, ils n'ont pas le monopole.
Non, ils n'ont pas le monopole du cœur et du social, mais sauf que s'il y avait des propositions un peu fortes...
Non, mais je partage en partie ce que vient de dire Jacques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une désespérance, puisqu'on a des inégalités qui se creusent et qui créent des tensions. On a une accumulation des richesses, on a vu que le nombre de milliardaires a explosé pendant la crise. Quand vous avez des gens qui n'arrivent plus à bouffer, des jeunes qui sont devant les queues, les banques alimentaires, mais je ne peux pas entendre que parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est en colère, on passe à l'acte et on agresse quelqu'un. C'est pas possible d'avoir ce discours-là. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens d'exprimer son mécontentement, et je le redis, et c'est pas souvent le fait d'individus isolés, je le répète ici, les profils des personnes qui se passaient à l'acte ces dernières semaines, et on a encore une enquête aujourd'hui dans Mediapart, qui, avec un homme qui a été infiltré par les services de renseignement, qui a déjoué des attentats, qui était issu des milieux d'extrême droite. Donc il faut aussi poser des mots sur la réalité des actes qu'il y a dans ce pays.
Oui, Mathieu.
Effectivement,
la violence, malheureusement, n'est pas simplement celle de l'extrême droite. Hein.
Mais ceux qui passent à l'acte aujourd'hui, aussi.
Thomas, vous ne pouvez pas dire ça. Franchement, bien sûr qu'il y a une violence d'extrême droite. Évidemment, il faut la condamner. Mais enfin, quand même, ce qui a causé le plus de morts depuis 10 ans, c'est l'islamisme radical. On peut pas. Voilà, il y a tous les jours des personnes qui tentent de s'organiser pour commettre des attentats. Enfin, faut arrêter quand même.
Je reviens juste sur ce qui a été dit par Romain et par Jacques. C'est extrêmement juste. En tout cas, dans les enquêtes, on les a. C'est la question sociale. Est-ce qu'en France, on va avoir un travail qui paye pour les Français qui bossent? Si on n'a pas ça, si on n'arrive pas à retrouver de l'espoir et un ascenseur social, c'est-à-dire un travail qui paye, c'est le fait de bosser, ça permet de nourrir ses enfants, ça permet aussi de s'accorder des plaisirs, parce que les Français travaillent pour ça. Le travail qui paye, c'est être sûr que ses enfants, ses propres enfants, lorsqu'ils font des études, ils ont à la sortie un emploi. Le travail qui paye, c'est plus globalement une société qui valorise les gens qui font des efforts versus des gens qui n'en font pas, même si c'est extrêmement minoritaire. Du point de vue des Français, en tout cas, la ligne de démarcation, elle est là, entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Ouais. Donc, est-ce que le prochain président de la République sera en capacité de redonner du pouvoir d'achat aux Français, avec des marges de manœuvre qui sont extrêmement réduites? C'est ça le débat qui est en cours. Et puis le deuxième, est-ce que symboliquement, on est capable aussi de valoriser ceux qui bossent? Si on n'est pas capable de faire ça, on aura les gilets jaunes puissance 10. Mmh. Le feu couve, et il couve aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des dépenses contraintes pendant qu'on a la stagnation des salaires, on a des dépenses contraintes qui ne cessent d'augmenter, avec des Français qui nous disent « pour moi, Netflix ou un abonnement à de la musique, c'est le seul lien que j'ai aux autres. Donc si j'ai plus ça et vous me coupez tout, qu'est-ce qui me reste ?» Et donc cette question sociale, en réalité, c'est la grande question avec la question sécuritaire qui devrait habiter tous les candidats à l'élection. Là où je me différencie de ce qu'a dit Romain, et je reprends ce qui a été dit précédemment, notamment par Michel, c'est que en France, quand ça ne va pas, on ne croit plus en l'État, mais on s'adresse quand même à l'État. On a encore un rapport comme si nous étions dans une royauté. Tout converge vers les politiques. Et moi, j'appelle les Français qui n'y croient plus à devenir eux-mêmes politiques. À s'investir en politique.
C'est autre chose.
À s'investir sur les listes électorales, de façon démocratique, à reprendre le pouvoir par les institutions et dans les urnes, dans les listes. Et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à la démocratie à laquelle on est tous attachés.
Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Et on continue à débattre sur Sud Radio avec Jacques Myard, Michel Taube, Mathieu Chaigne et Thomas Porte. Couvre-feu, masque en extérieur, va-t-il falloir attendre le 1er juillet ? On voit que les Français en ont plus qu'assez. Il y a de plus en plus de manifestations, d'endroits où le masque n'est pas respecté. Alors, on a M. Delfrécy qui a dit oui, il faudrait peut-être penser à retirer le masque avant le 1er juillet. Et puis, rappel à l'ordre du ministère de la Santé ce matin qui dit il n'a rien été décidé et on ira jusqu'au 1er juillet. Donc, est-ce qu'ils pourront tenir ?
C'est vrai que Delfraissy connaît moins le sujet que le ministère de la Santé, n'est-ce pas? Donc justement, non, si M. Delfraissy dit cela, moi je veux dire, la seule raison pour laquelle je suis plutôt partisan, et Dieu sait que j'aurais des raisons d'appeler à la prudence et d'être extrêmement prudent et de respecter les gestes barrières, c'est qu'en fait, les autorités n'ont aucun moyen et aucune volonté de faire respecter le couvre-feu, sauf dans 2-3 endroits symboliques, comme on l'a vu ce week-end aux Invalides. Mais la réalité, c'est que personne ne respecte plus cette barrière des 23 heures, sauf les restaurants, qui sont très scrupuleux, qui ferment scrupuleusement
à
23
heures. Mais ils ont du mal à faire partir les gens,
oui,
ils ont
bien
beaucoup
sûr.
De mal.
Mais évidemment, mais dans ce cas-là, laissons-les faire. Par exemple, il y a la fête de la musique, dimanche prochain. On aura la fête de la musique sans musique. Et voilà.
Les groupes individuels sont interdits.
Voilà, mais franchement, heureusement, la courbe épidémique a beaucoup baissé. Donc, lançons plutôt un appel à la vigilance de chacun et laissons nos concitoyens faire la fête pour la fête de la musique. Moi, je pense que, de toute façon, les règles ne seront pas respectées. Et les autorités n'ont aucune volonté et moyen de les faire respecter. Donc,
Thomas.
Moi, je lisais un infectiologue ce matin sur France Info qui, lui, préconisait effectivement d'attendre jusqu'à la fin du mois de juin pour des raisons. Lui, il expliquait qu'il fallait encore attendre un peu que la baisse dans les hôpitaux continue pour retrouver une situation normale. Il comparait sur le taux de contamination par rapport au mois de juin l'an dernier. Je crois que, très sincèrement, bon, il nous reste 3 semaines et on regarde aussi ce qui se passe un peu à l'étranger. On en parlait tout à l'heure, il y a des situations inquiétantes dans d'autres pays, donc il faut quand même faire preuve de vigilance. Et on sait aussi que les études montrent que c'est en extérieur qu'on a le moins de chances potentielles d'être contaminé. Donc je pense que pour moi, en tout cas, si je devais donner mon sentiment personnel, attendons tranquillement la fin du mois de juin. On sort quand même d'un an et demi de période extrêmement traumatisante. Et je voudrais pas que
On n'est pas à 15 jours près.
Ouais, c'est ça. Mais je voudrais pas que par souci de précipitation, on puisse engendrer une autre vague. Donc voilà, c'est attendons.
C'est évident qu'il faut un peu de patience et pas sauter aux conclusions hâtives. Il est évident aujourd'hui que le gouvernement a peu de moyens de faire respecter totalement le port du masque, notamment, et le couvre-feu. Il n'en demeure pas moins qu'il vaut mieux patienter jusqu'à la fin du mois, et si on a une réelle baisse, parce qu'il y a quand même quelques signes inquiétants d'un retour, notamment y compris au Royaume-Uni, qui ont vacciné fortement, il y a quand même des retours inquiétants.
Absolument.
Alors, il y a un point qu'il faut souligner, c'est que le décret qui proroge notamment le port du masque jusqu'au 30 juin, et qui donne des indications sur les jauges qui doivent être respectées dans les salles, etc., 65%. Et les instructions qui ont été données par Roselyne Bachelot, c'est totalement antinomique. Donc là, il y a un problème majeur. Ce qui est venu de Roselyne Bachelot, c'est « vous ne faites rien, il n'y a pas de fête de la musique, vous ne devez pas avoir plus de 10 personnes qui doivent assister assises à un concert ». Et puis ce que dit le décret par ailleurs, c'est pas cohérent. Donc il est urgent que le gouvernement prenne une position. La fête de la musique, à mon avis, vous savez ce que c'est, la vraie fête de la musique, c'est que chacun descend dans la rue avec une guitare ou un accordéon et fait de la musique, hein. Bon, les villes ne vont pas l'organiser parce qu'on est dans des contraintes innommables, mais je pense que ça va être extrêmement difficile à interdire aux gens de fêter et de célébrer la fête de la musique.
Alors Mathieu, Cheng.
On retrouve chaque année les mêmes débats, et au fait pourquoi ? Parce que la nature humaine, on est des êtres d'habitude et on a des biais, ce qu'on appelle des biais, ce qu'on dit en sciences comportementales. Et il y a un biais qui est hyper important, c'est le biais du temps présent. On a beaucoup de mal en tant qu'être humain à renoncer à une satisfaction immédiate contre une satisfaction ultérieure. Ouais. Le fait finalement d'avoir totalement contrôlé l'épidémie au niveau le plus bas, mais qui est plus hypothétique. Et donc la nature humaine, on est tous ainsi faibles, on a tendance à ne pas résister au bonheur de se retrouver. Puis il y a un deuxième biais.
Le meilleur moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y succomber.
Voilà, et puis exactement. Et puis il y a un deuxième biais, c'est le biais de surconfiance, toujours de considérer que finalement, nous, à titre individuel, on va pas être contagieux, on va pas se contaminer, c'est un problème. Et puis vient se rajouter à ça aussi, c'est beaucoup de Français qui pensent que étant vaccinés, même avec une seule dose, ils sont immunisés.
Non.
Il n'y a pas d'immunité individuelle avant la deuxième dose et les 14 jours après la deuxième dose. Et il n'y a pas d'immunité collective aujourd'hui avant les 90%.
Donc, à vos bras. Vous êtes unanime pour... je vais juste vous lire le témoignage d'un auditeur qui souvent envoie des messages, qui est un ancien journaliste et qui me dit « Je fais partie de cette classe moyenne, qu'importe les impôts, qui paye des impôts, qui n'a droit à aucune aide. Il dit « Je fais la plonge dans un restaurant pour 800 euros afin de payer mes impôts car la retraite ne me suffit pas. À Perpignan, hier, 37 degrés, record battu pour un mois de juin. Comment respecter cette mesure ? Je fais la plonge avec un masque et il fait 43 degrés. » Voilà, je vous laisse...
La question de la présidentielle.
...réfléchir à ce témoignage. Merci à vous dans un instant, André Bercoff.